Chapitre 18. La visite de Jéthro. Tableau typique, Israël, les gentils et l'Église. Nous arrivons ici à la fin d'une portion bien remarquable de l'Exode. Dieu, dans l'exercice de sa grâce, a visité et racheté son peuple. Il l'a fait sortir du pays d'Égypte et l'a délivré, d'abord de la main du Pharaon, puis de celle d'Amalek. Nous avons pu voir dans la manne un type de Christ descendu du ciel, dans le rocher un type de Christ frappé pour son peuple, et dans l'eau qui jaillit un type du Saint-Esprit. Puis, selon l'ordre merveilleux des Écritures, nous allons trouver un tableau de la gloire à venir, comprenant trois grandes parties, le Juif, le Gentil et l'Église de Dieu. Pendant la période de la réjection de Moïse par ses frères, il fut mis à part et une épouse lui fut donnée, la compagne de sa réjection. Et le commencement de ce livre nous a appris quel était le caractère de la relation de Moïse avec cette épouse. Il était pour elle un époux de sang. C'est précisément ce que Christ est pour l'Église. L'union de l'Église avec lui est fondée sur la mort et la résurrection. Et l'Église est appelée à la communion de ses souffrances. C'est pendant la période de l'incrédulité d'Israël et de la réjection de Christ que l'Église est rassemblée. Et quand elle sera complète, selon les conseils divins, quand la plénitude des nations sera rentrée, Romains 11, verset 25, alors Israël reparaîtra de nouveau sur la scène. Il en fut de même de Séphora et de l'ancien Israël. Moïse l'avait renvoyé pendant la durée de sa mission auprès d'Israël, et quand celui-ci eut été manifesté comme un peuple entièrement délivré, nous voyons Séphora réapparaître. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse, après que celui-ci l'eut renvoyée, et ses deux fils, dont l'un s'appelait Guershom, car il avait dit « J'ai séjourné dans un pays étranger », et l'autre, Éliézer, « car le Dieu de mon père m'a été en aide et m'a délivré de l'épée du Pharaon. » Et Jéthro vint avec les fils et la femme de Moïse vers celui-ci au désert où il était campé, à la montagne de Dieu. Et il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je suis venu vers toi et ta femme et ses deux fils avec elle. » Et Moïse sortit à la rencontre de son beau-père et se prosterna et le baisa. Et ils s'enquirent l'un de l'autre touchant leur bien-être et entrèrent dans la tente. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toute la fatigue qui les avait atteints en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Et Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon. Maintenant je connais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car en cela même en quoi ils ont agi présomptueusement, il a été au-dessus d'eux. » Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu, et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent pour manger le pain avec le beau-père de Moïse en la présence de Dieu. Versets 2 à 12. Cette scène est d'un profond intérêt. Israël est réuni en triomphe devant l'Éternel, le gentil offre un sacrifice, et, pour compléter le tableau, l'épouse du libérateur est introduite avec les enfants que Dieu lui a donnés. En un mot, c'est une représentation frappante du royaume à venir. L'Éternel donnera la grâce et la gloire. Psaume 84, verset 11. Les pages qui précèdent nous ont montré de nombreuses opérations de la grâce. Ici, le Saint-Esprit place devant nos yeux un magnifique tableau de la gloire et nous y présente en figure les diverses sphères dans lesquelles cette gloire sera manifestée. L'Écriture distingue le Juif, le Gentil et l'Église de Dieu. Voir 1 Corinthiens 10, verset 32. Cette distinction a existé depuis que le mystère de l'Église a été pleinement révélé par le ministère de Paul et elle existera durant toute la période millénaire. L'apôtre enseigne expressément dans son épître aux Éphésiens que le mystère de l'Église n'avait pas été donné à connaître aux hommes dans d'autres générations, comme il lui a été révélé. Éphésiens 3, voir Colossiens 1, versets 25 à 28. Mais, bien qu'il n'eût pas été révélé directement, ce mystère avait été représenté en figure de diverses manières. Ainsi, par exemple, dans la relation d'Adam et d'Ève, dans le mariage de Joseph avec une Égyptienne, dans celui de Moïse avec une femme cushite. Le type ou l'ombre d'une vérité diffère beaucoup de la révélation directe et positive de cette vérité. Le grand mystère de l'Église ne fut pas manifesté jusqu'à ce que Christ, du milieu de la gloire céleste, le révéla à Saul de Tarse. Ainsi, tous ceux qui cherchent la révélation complète de ce mystère dans la loi, les prophètes ou les psaumes, s'engagent dans une fausse voie. Mais ceux qui ont bien compris l'enseignement de l'Épître aux Éphésiens à ce sujet peuvent en suivre avec intérêt et profit les ombres préfiguratives dans les écrits de l'Ancien Testament. Nous avons donc, au commencement de ce chapitre, une scène millénaire. Tous les champs de la gloire sont ouverts devant nos yeux. Le peuple juif est là, comme le grand témoin sur la terre de l'unité, de la fidélité, de la miséricorde et de la puissance de l'Éternel. Voyez par exemple Ésaïe 43, versets 10 à 12 et 21. Il l'a été dans les générations passées. Il l'est maintenant et il le sera éternellement. Le gentil prend connaissance des voies de Dieu envers les Juifs. Il suit l'histoire merveilleuse de ce peuple, choisi et mis à part, ce peuple merveilleux dès ce temps et au-delà. Ésaïe 18, verset 2. Voir Exode 33, verset 16 et Deutéronome 4, verset 6 à 8. Il voit des trônes et des empires renversés, toute chose et tout homme obligé de céder, pour que la suprématie de ce peuple, dans lequel l'Éternel a mis son affection, soit établie. « Maintenant je connais, dit le gentil, que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car en cela même en quoi ils ont agi présomptueusement, il a été au-dessus d'eux. » Verset 11. Telle est sa confession quand les pages merveilleuses de l'histoire du peuple juif sont déroulées devant lui. Enfin, l'Église de Dieu, représentée collectivement par Séphora et dans les membres qui la composent, par les fils de Séphora, l'Église de Dieu apparaît comme étant unie dans la relation la plus intime avec le Libérateur. On ne peut pas fonder une doctrine sur un type, mais quand la doctrine est révélée, on peut en discerner les types. De toute manière, il faut du discernement spirituel, soit pour comprendre la doctrine, soit pour discerner le type. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Des chefs pour assister Moïse. Depuis le verset 13 jusqu'à la fin du chapitre, l'Écriture nous parle de l'établissement des chefs qui devaient assister Moïse dans l'administration des affaires de la congrégation. Ceci eut lieu d'après le conseil de Jéthro, qui craignait que Moïse ne s'épuise sous le poids de sa charge, et il peut être utile de rapprocher de ce fait la mise à part de 70 hommes en nombre 11. On y voit Moïse écrasé sous le poids de la responsabilité qui pèse sur lui et exprimant l'angoisse de son âme en disant à l'Éternel « Pourquoi as-tu fait ce mal à ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises « Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte l'enfant qui tète jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères ?» Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et si tu agis ainsi avec moi, tue-moi donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Nombre 11, versets 11 à 15. Il est évident que Moïse, dans cette circonstance, se retire d'un poste d'honneur. Si Dieu trouvait bon de faire de lui le seul instrument pour gouverner l'assemblée, c'était un honneur et une faveur. Et il est vrai que la responsabilité était immense, mais la foi aurait reconnu que Dieu était suffisant pour toute chose. Mais Moïse perdit courage, tout grand serviteur qu'il était, et il dit « Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Il n'était pas trop pesant pour Dieu, et c'était lui qui le portait. Moïse n'était que l'instrument. Moïse aurait tout aussi bien pu dire de sa verge qu'elle portait le peuple, car il n'était, dans la main de Dieu, rien de plus que n'était sa verge dans sa propre main. C'est en ceci que les serviteurs de Dieu faiblissent continuellement, et d'une manière d'autant plus navrante que cette faute revêt l'apparence de l'humilité. Reculer devant une grande responsabilité ressemble à la défiance de soi-même et à une profonde humilité d'esprit. Mais la seule chose qu'il nous importe de savoir est celle-ci. Est-ce Dieu qui nous a placés sous cette responsabilité? S'il en est ainsi, certainement Dieu sera avec nous pour nous aider à la porter, et avec lui nous pouvons tout supporter. Avec lui, le poids d'une montagne n'est rien, tandis que sans lui, le poids d'une plume nous écrase. Si un homme se met en avant, prend sur lui un fardeau que Dieu ne l'a jamais appelé à porter, et entreprend ainsi une œuvre pour laquelle Dieu ne l'a jamais qualifié, nous pouvons nous attendre à le voir succomber sous le poids de ce fardeau. Mais si c'est Dieu qui met un fardeau sur un homme, il le fortifiera et le rendra capable de le porter. Quitter un poste qui nous a été assigné par Dieu n'est jamais un fruit de l'humilité. Bien au contraire, l'humilité se manifestera en restant à ce poste dans une simple dépendance de Dieu. Quand nous reculons devant le service sous prétexte d'incapacité, c'est une preuve que nous sommes occupés de nous-mêmes. Dieu ne nous appelle pas au service sur le fondement de notre capacité, mais de la sienne. Par conséquent, à moins d'être exclusivement occupé de soi-même ou d'être plein de méfiance envers Dieu, je ne dois pas abandonner une position de service ou de témoignage à cause de la responsabilité qui s'y rattache. Toute puissance appartient à Dieu. Que cette puissance agisse par le moyen d'un seul ou par le moyen de 70, peu importe. Cette puissance est toujours la même. Mais si le serviteur refuse la charge qui lui est confiée, il ne s'en trouvera que plus mal. Dieu ne veut forcer personne à occuper un poste d'honneur si on ne sait pas se confier en lui pour y être soutenu. C'est ce qui arriva à Moïse. Il se plaignit du fardeau qu'il avait apporté et lui fut immédiatement enlevé. Mais avec le fardeau, il perdit l'honneur de le porter. Et l'Éternel dit à Moïse, « Assemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël, que tu sais être les anciens du peuple et ses magistrats, et amène-les à la tente d'assignation, et ils se tiendront là avec toi. Et je descendrai, et je parlerai là avec toi, et j'ôterai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi le fardeau du peuple, et que tu ne le portes pas toi seul. » Nombre 11, versets 16 et 17. Aucune nouvelle puissance n'est introduite. Dans un seul homme, comme dans 70, il y avait le même esprit. 70 hommes n'avaient pas en eux-mêmes plus de valeur ou de mérite qu'un seul. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Jean 6, verset 63. Ce pas de Moïse ne lui fit rien gagner en fait de puissance, mais lui fit perdre beaucoup en fait de gloire. Dans la dernière partie de ce chapitre des Nombres, Moïse profère des paroles d'incrédulité qui lui attirent une réprimande sévère de la part de l'Éternel. La main de l'Éternel est-elle devenue trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit t'arrivera ou non. Verset 23. Si l'on compare les versets 11 à 15 et 21 à 23, on remarque entre eux un rapport évident et solennel. Celui qui recule devant la responsabilité à cause de sa propre faiblesse court le danger de mettre en doute la plénitude et la suffisance des ressources de Dieu. Toute cette scène est d'un enseignement précieux pour le serviteur de Christ qui serait tenté de se sentir seul ou surchargé dans son œuvre. Qu'il se souvienne que là où le Saint-Esprit opère, un seul instrument est aussi bon et aussi efficace que 70. Et que là où Dieu n'opère pas, 70 ne valent pas plus qu'un seul. Tout dépend de l'énergie du Saint-Esprit. Avec lui, un seul homme peut tout faire, tout endurer, tout supporter. Sans lui, 70 hommes ne peuvent rien. Que le serviteur isolé se souvienne, pour la consolation et l'encouragement de son cœur fatigué, que pourvu qu'il ait avec lui la présence et la puissance du Saint-Esprit, il n'a pas lieu de se plaindre de sa charge ou de soupirer après une diminution de son travail. Si Dieu honore un homme en lui donnant beaucoup à faire, que cet homme se réjouisse et ne murmure pas. Car s'il murmure, il pourrait bientôt perdre cet honneur. Dieu n'est pas embarrassé pour trouver des instruments. Il aurait pu des pierres faire naître des enfants à Abraham, et de ces mêmes pierres il peut susciter des serviteurs nécessaires à l'accomplissement de son œuvre glorieuse. Ah, que n'avons-nous un cœur pour le servir ? Un cœur patient, humble, dévoué, dépouillé de lui-même. Un cœur prêt à servir avec d'autres et prêt à servir seul. Un cœur tellement rempli d'amour pour Christ qu'il trouve sa joie, sa plus grande joie, à le servir, dans quelque sphère que ce soit et quel que soit le caractère du service. C'est là, assurément, ce dont nous avons particulièrement besoin au jour où nous vivons.